danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. On y fait venir des grosses têtes, des gugus et puis des athlètes. On aime bien dans nos bistrots les gens qui ne se ressemblent pas trop. Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos ciboulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Jean Viard.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. Plum qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Bon, bonsoir. C'est très gai votre endroit, donc c'est bien de venir ici. Alors après, c'est pas évident de passer de la musique, de la chanson, tout ça, puis de continuer à vous amuser pareil, ça va être un peu difficile. Bon, alors moi, en fait, j'ai trois métiers. Hein. J'ai le métier dont il a parlé, c'est-à-dire je suis sociologue, hein, ce qui veut dire en gros que j'essaye de raconter notre société. Un sociologue, il est payé pour raconter le monde dans lequel on vit. C'est mon premier métier. J'en ai un deuxième que j'aime beaucoup, je suis éditeur, donc j'édite, notamment j'ai édité beaucoup de dissidents dans les pays de l'Est, des Chinois, etc. C'est aux éditions de l'Aube que j'ai créé, pas tout seul, mais enfin bon. Et puis j'ai un troisième métier qui est plus secret, c'est que je suis élu local. Bon, je ne suis pas sûr que j'ai eu une bonne idée, mais enfin, notamment à Marseille, je suis élu à Marseille, qui est une très grande ville, donc c'est un peu compliqué, mais ça, c'est une expérience intéressante, on pourra y revenir. Bien. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là ce soir, c'est pour essayer de vous parler des changements du monde, et dans ces changements, des changements du monde rural et de la campagne. Mais on ne peut pas simplement parler comme ça du monde rural, de la campagne, si on ne se rend pas compte à quel point la société change à une vitesse extraordinaire. On pourrait s'amuser à dire, bon, si on avait fait cette réunion dans ce café en 1909, qu'est-ce qui serait radicalement différent ? D'abord, la première chose, c'est que la moitié des gens de plus de 60 ans ne seraient plus là. C'est pour ça qu'on va bientôt être 9 milliards. C'est parce qu'effectivement, la vie s'est extraordinairement allongée. On pourrait se dire aussi que maintenant, la majorité des enfants naissent en mariage, et à l'époque, c'était rarissime, ou alors souvent, on les mettait à l'assistance. Nous, on est à 52% des enfants qui naissent en mariage. On pourrait prendre ces deux exemples. Je pourrais vous en donner un autre un peu amusant. C'est qu'à l'époque, une dame avait un bébé tous les 100 rapports amoureux. Aujourd'hui, c'est tous les 3000 rapports amoureux. Donc, c'est quand même des changements considérables dans les liens sociaux, les relations des gens entre eux, etc. Pourquoi je vous donne ces chiffres comme ça ? C'est juste pour dire que le monde change à une vitesse extraordinaire sur des choses aussi fondamentales que la durée de vie, aussi importantes que le nombre d'enfants, et aussi donc durée de vie, ça veut dire des gens à nourrir, ça veut dire toutes ces questions, et qu'on a rarement conscience de l'époque qu'on vit. Et c'est pour ça que je vais commencer par quelques chiffres généraux avant d'entrer dans la question agricole et rurale. Votre espérance de vie, dans la salle, ce soir, nous, aujourd'hui en France, on vit en moyenne 700 000 heures. Moi, c'est un des fondamentaux. Victor Hugo disait toujours « la vie est l'essentiel » et je pense qu'il a raison. Et nos grands-parents vivaient 500 000 heures. On a gagné 200 000 heures d'espérance de vie en deux générations. C'est gigantesque parce que ça veut dire que la structure de la vie a changé. Ce n'est pas simplement qu'on fait plus souvent la même chose. C'est qu'on va avoir plus de discontinuité, plus de ruptures, plus de changements, de couples, de métiers, de déménagements, etc. Et donc cette question du temps, elle est absolument essentielle et on la vit peu. Par exemple, en France aujourd'hui, on travaille 10% de sa vie. 10%. On travaillait 40% un siècle pour continuer sur mon parallèle avec 1909. On travaillait 40% de sa vie, on travaillait plus que 10%. Alors on va tous dire qu'on travaille trop ou pas assez, on peut en discuter 107 ans. Mais de toute façon, la place du travail a complètement changé. Vous voyez, quand on aménage une ville, quand on est élu local, il faut se dire 12% du temps des gens est consacré au travail. 88%, ils font autre chose. Et donc, qu'est-ce que je fais de ce type de société-là, de ce type d'équilibre-là, de ce type d'attente ? Donc, on pourrait prendre d'autres chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le temps s'est complètement dilué. Et quand on se représente, et ça revient à nos questions agricoles, quand on dit on va être 9 milliards en 2050, il faut se représenter souvent, mais une photo avec des bébés. Non, il faut mettre une photo avec des personnes âgées. Parce que si on va être nombreux, c'est parce qu'on vit plus longtemps. On fait moins de bébés, mais on les garde plus longtemps. C'est bien, parce que c'était nous les bébés, c'est nous qui vivrons plus longtemps. Donc on va vers ce type de société. C'est évidemment un changement total. Il y a une image que j'aimais bien, d'un économiste qui s'appelait Fourastier. Il disait, on entre dans la civilisation des vies complètes. On entre dans la civilisation des vies complètes, en tout cas dans les pays développés, en tout cas dans cette part-là de l'humanité. Pas dans l'ensemble de l'humanité, bien sûr. Mais en tout cas dans la part qui est la nôtre, celle des pays développés, etc. Et l'un dans l'autre, la vie progresse quasi partout, pas partout, même s'il y a un décalage absolument gigantesque, parce que ça, évidemment, c'est des écarts. Et après, il y a des écarts, il n'y a pas que des moyennes, évidemment. Mais je crois qu'il faut comprendre ce genre de choses. C'est quoi des vies complètes ? C'est quoi se dire qu'on est dans un monde dominé par l'âge ? On est dans des sociétés vieillissantes, des sociétés qui ont peur du changement, des sociétés qui vont être effectivement plus conservatrices, plus lentes à changer, qui vont avoir peur des innovations scientifiques, qui vont avoir des rapports à l'innovation, y compris des innovations qui peuvent être contestables, comme les OGM, comme les téléphones portables, etc. Comme toute société vieille, on a peur de l'innovation plus, parce qu'on se protège, parce qu'on veut durer. Évidemment, on est dans un monde où d'autres parties du monde sont des sociétés jeunes, qui innovent à toute vitesse, qui ne se posent pas ces questions, etc. Et donc, il faut comprendre ce type de changement. Et comprendre qu'on est dans un monde où on vit des vies totalement discontinues, des vies à étapes. C'est très difficile de dire où les gens habitent, combien de gens dans cette salle sont nés ici. La majorité, par exemple, des gens qui votent, ils ne votent pas dans la commune où ils travaillent. En France, 60% des gens qui votent, ils habitent dans une commune, ils travaillent dans une autre. Donc, ils disent à leurs élus, moi je veux quoi ? Une bonne école, du calme, une homogénéité sociale. Le développement, c'est un autre problème. Là où je dors, je vote. Et donc c'est une démocratie très liée à l'habitat du quotidien et pas au développement, etc. Donc il faut regarder toutes ces choses et se dire du coup, et là ça nous ramène à notre sujet, dans ce temps qui s'augmente, ce qui se passe, c'est qu'on se déplace de plus en plus. Et c'est évidemment à la fois une chose que vous savez tous à cause des problèmes, évidemment, de carbone, etc. Mais il faut dire une chose simple. Aujourd'hui, on fait en moyenne 45 km, et nous qui sommes des ruraux, moi j'habite à la campagne comme vous, plus que les autres, par jour. Par jour. Et le groupe social qui se déplace le plus, c'est les femmes d'agriculteurs. Parce que vous savez, comme elles font, elles s'occupent des enfants, elles vont chercher les phytosanitaires, on les renvoie chercher les papiers, etc. C'est le groupe qui fait le plus de kilomètres. Et donc, il faut se représenter qu'on était dans des sociétés jusqu'aux années 60, où au fond on fait 5 km par jour. C'est ce que fait la majorité de l'humanité. C'est le paysan qui va dans son champ, le commerçant qui descend de sa boutique, l'ouvrier qui va à son usine, etc. C'est le monde du piéton et du vélo. Et puis d'un coup, en 30 ans, 40 ans, on a complètement explosé nos déplacements. Ce qui fait que c'est quoi un habitant ? C'est très compliqué, c'est quoi un habitant ? C'est quoi un citoyen ? C'est quoi un citoyen quand on peut voter en étant résident secondaire, quand il y a des gens qui travaillent ici et qui habitent ailleurs, des gens qui habitent ici et qui vont travailler ailleurs, etc. C'est quoi le monde rural ? Comment on définit l'espace ? Une ville aujourd'hui, ça a une moyenne de 30 km de rayonnement. Il y a des gens qui, sur une aire de 30 km dans une ville normale, Paris Plus, vont effectivement être là tous les jours. Donc ça ne correspond pas du tout à la carte politique. C'est quoi cet espace citoyen-là ? Comment il s'organise ? Comment il existe ? Et quand est-ce qu'on est en ville ? Quand est-ce qu'on est à la campagne ? C'est pas évident. Vous pouvez dire aussi de la même conséquence, c'est que en France, 50% d'entre nous vivons à côté de la ville de l'après-guerre. Si vous prenez la carte des villes de l'après-guerre, la moitié des Français en fait se sont installés dans ce qui était à l'époque la campagne autour, cet immense périurbain. Ce qui fait que la majorité des Français ont des jardins. Il faut se représenter aussi cette société-là. Je veux dire, on a toujours l'image de la ville avec des tours et de la campagne avec des champs. Plus compliqué, puisque plus de 50% des gens, en fait, ont des jardins, des maisons avec jardins. Donc, cette société-là, qui n'est pas forcément celle qu'on met en valeur. Donc, je crois qu'il faut comprendre que ça, ce ne sont que des éléments descriptifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une culture qui a fondamentalement changé. Cette culture de la vie par étapes. Cette culture due au fond du père qui pouvait se retirer quand le fils s'est assis. On disait toujours à la campagne, quand le fils s'assoit au bout de la table, le père peut mourir. Et au fond, c'était ça la succession. Quand les enfants étaient installés, les parents pouvaient disparaître. Nous, on est dans une de ces quatre générations. La plupart d'entre nous connaîtront leurs petits-enfants, voire leurs arrière-petits-enfants. On doit souvent s'occuper, à mon âge, de vieux parents et de grands ados qui ont du mal à démarrer. On est là dans des équilibres absolument nouveaux, sur lesquels souvent, d'ailleurs, on est relativement peu formés. Et en même temps, évidemment, c'est une société où on n'a jamais passé autant de temps à se parler, à se téléphoner, à faire l'amour, à s'occuper de nos enfants. Le cœur de cette société, c'est la relation entre les gens. C'est les réseaux, c'est les liens sociaux. Mais ce n'est pas des liens sociaux publics, c'est des liens privés en réalité. Ce n'est pas des grandes participations à des fêtes, des cérémonies, des phénomènes comme ce soir qui sont magiques. Il y en a d'ailleurs partout. Tout le monde parle, tout le monde s'interroge. Vous allez partout en France, il y a des soirées comme ça, je pourrais en faire deux par jour. Il y a un énorme lieu, alors aussi amusant que chez vous, non, il faut être sérieux, mais n'empêche que cette interrogation, cette demande, ça existe partout. Donc cette société, elle change, elle s'interroge sur elle-même, plus qu'on ne le dit, on l'entend très peu dans la classe politique, mais je crois qu'il faut regarder tout ça. Et se dire aussi, une chose simple, c'est que dans ce monde-là, ce qui est fondamental, c'est la question de la propriété du temps. À qui est le temps ? À qui est votre temps ? Pendant longtemps, le temps était à Dieu. Il y a encore des sociétés où le temps est à Dieu. Donc si je perds mon temps, si j'attends, ce n'est pas grave, ce n'est pas mon temps que je perds. Puis après, le temps a été au travail. On entend encore des discours, en ce moment, il y a un retour du discours politique sur gagner plus, travailler plus, etc., comme si le travail et le temps étaient la même chose. Je pense que on est sorti de ça. Aujourd'hui, le temps est à nous, y compris on a la possibilité de ne pas travailler si on n'a pas envie. On peut ne pas vivre en couple. Il y a 18 millions de Français qui vivent seuls. On peut prendre des tas d'exemples de cette privatisation du temps et de tous les problèmes sociaux que ça nous pose. Bon, je voulais poser ça un peu avant pour dire une chose fondamentale, c'est que le monde paysan, il ne vit pas à part de cette société, le monde rural, il ne vit pas à part, il vit dedans. Il est traversé par les mêmes changements. Mais souvent, bon, moi qui m'arrive dans mes différents métiers de conseiller les grands producteurs agricoles, je suis dans le conseil du ministre sur les questions agricoles, et c'est dans la perspective, le monde rural a souvent l'impression que c'est à lui qu'on en veut, qu'on n'est pas attentif à ses changements, à ses interrogations. Il y a une demande de reconnaissance, de respect, qui sont légitimes, mais qu'on trouve partout en réalité. Dans une société qui est dans un processus de changement extrêmement, extrêmement rapide, extrêmement brutal, difficile à expliquer, et pas porté par la classe politique. Ce n'est pas le monde politique qui fait changer nos sociétés. C'est le bouleversement des technologies, c'est la révolution informatique, c'est la mondialisation, c'est le fait qu'on est entré dans une histoire de l'homme qui est tout à fait nouvelle. Dites-vous, qu'est-ce qu'on dira de nous dans 5000 ans ? Qu'est-ce qu'on dira de nous dans 5000 ans ? On dira probablement, c'est le moment où l'humanité s'est réunifiée. C'est le moment dans l'histoire de l'humanité où, après avoir mis des dizaines, des milliers d'années à partir d'Afrique, puisque c'est ce qu'on raconte aujourd'hui, à conquérir le monde, à devenir blanc, jaune, vert, grand, petit, végétarien, éleveur de vaches, etc., constructeur de villes, à un moment, on s'est réunifié et on a refait groupe. Alors on a des problèmes quand on fait groupe, des problèmes d'identité, des problèmes de ce déplacement, etc. Mais l'idée d'un espace à conquérir n'existera plus jamais. L'idée d'un régime politique qui sert à conquérir des terres, à organiser des colonies, etc., c'est terminé. Toute cette histoire-là est terminée. Alors il y a des guerres, il y a des conquêtes, il y a des tentatives des uns de prendre les autres, bien entendu. Mais c'est périphérique. Ça veut dire qu'on connaît, on sait que c'est occupé partout. On le voit tous les soirs à la télévision. Ça n'entraîne pas que les hommes soient meilleurs. C'est pas du tout ça que je dis. Mais c'est qu'effectivement, cet imaginaire de la conquête, de l'avancée, de la transformation, est un phénomène qui a largement disparu. Et qu'on est dans cette époque où l'humanité se réunifie et prend conscience qu'elle est sur un espace unique, limité. Et au fond, quand on a vu les Américains marcher sur la Lune, on a compris qu'on n'était pas prêt d'y faire pousser des carottes. Que quand ils se déplacent avec leurs costumes, leurs machins et tout, on a bien compris que d'ici que l'humanité puisse aller sur d'autres planètes, se reposer la question de nouvel espace écologique, etc., c'était pas dans l'histoire de l'homme, ça. L'histoire de l'homme, elle est sur la Terre, à 9 milliards, sur un espace, effectivement, qui est fragilisé par nos productions mêmes. Et donc, c'est l'enjeu sur lequel on est. Et je crois qu'il faut le regarder comme ça, y compris ça explique nos quêtes identitaires, nos angoisses, nos désirs de local. Et il faut toujours faire attention que ces désirs de local peuvent être très riches, très positifs et très dangereux. C'est aussi une façon d'être différent de l'autre. Donc comment est-ce qu'on est à la fois hyper local, hyper global, comment on est attaché à la culture d'un territoire, comment on la valorise, comment en même temps on n'en fait pas une clôture pour que les autres n'y viennent pas, et comment on se pose toutes ces questions, c'est des sujets qui sont évidemment au cœur des questions de nos sociétés. Donc ça, c'était un peu mon introduction, mais je tiens beaucoup à cette lecture d'un monde en changement, d'un monde dont on ne sait pas où il va, qui nous fait peur, et donc qui entraîne des réactions de violence. Par exemple, si je dis... 9 milliards d'hommes, est-ce que l'agriculture biologique saura les nourrir? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand je dis que je ne sais pas, dans certains publics, je me fais siffler. Je dis je ne sais pas. Et il faudra nourrir 9 milliards d'hommes. Je dis il y a deux logiques. Il y a une logique de transformation du monde agricole dans ces techniques. Il y a une logique du nombre de gens qu'il faudra nourrir. Comment ça va se gérer? Actuellement, je ne le sais pas. Et donc, je veux dire, il faut se dire qu'on a ces grands enjeux devant nous qui sont parfois difficiles. Alors après, pour revenir plus vers nos questions agricoles, pour schématiser, ce qui est en train de se passer, c'est que le fer pousser redevient plus légitime que le fossile. Et qu'au fond, la révolution industrielle, ça a été le primat d'énergie fossile, des matières premières fossiles, etc. Et d'une certaine façon, tous les métiers du fer pousser, le travail de la forêt, le travail de la terre, etc., ont été perçus comme des vieux métiers, des métiers moins honorables. Vous savez comme moi qu'on disait toujours, oh ben oui, le petit dernier qui est resté, on le garde pour faire la ferme, ou le paysan qui a le front bas, etc. On pourrait trouver une multitude d'images sur le monde agricole, sur la campagne, qui y compris rendait difficile parfois la transmission, l'honneur du métier. Et donc du coup, il faut comprendre cette mutation, y compris la bataille terrible qu'a amené le monde agricole pour être moderne, pour être en pointe, pour être productif, donc pour être honorable dans une société de production. Il faut comprendre ces équilibres qui se sont cherchés dans les 50 dernières années si on veut qu'un certain nombre de choses puissent évoluer. Et il faut comprendre ce type de bataille. Mais donc se dire l'inversion fondamentale, c'est ça. Pour moi, c'est le retour du faire pousser comme valeur positive. Le faire pousser, ça va du pot de fleurs, du jardin, de l'exploitation de 10 vaches à l'exploitation de 1000 hectares. C'est effectivement l'ensemble de ce rapport au vivant, au renouvellement, à l'incertain du climat, avec un rôle tout à fait nouveau pour la forêt, un rôle tout à fait nouveau pour l'aliment. Donc ça, c'est un peu la toile de fond, à mon avis, d'une réflexion qu'il faut essayer d'avoir. En même temps, je crois qu'il faut comprendre qu'on était dans un monde dominé par l'idéologie du progrès, l'idée qu'on avançait, qu'il y avait des étapes et que l'étape d'après serait toujours, et qu'en gros, l'humanité trouverait toujours les solutions aux problèmes qu'il crée, pour revenir vite. Et on est en train de passer de l'idéologie du progrès à l'idéologie du développement durable. Ce sont des idéologies. C'est des systèmes de représentation, c'est des systèmes parfois avec des certitudes, des choses justes, des choses qui relèvent de la certitude, d'autres de la conviction. Et au fond, on est en train de changer de système idéologique. C'est aussi comme ça qu'il faut regarder le développement durable à mes yeux, c'est-à-dire à la fois comme une nouvelle façon d'appréhender le réchauffement climatique, tous les risques qu'on connaît de pollution, de destruction des écosystèmes, etc. Mais après, ça devient un système idéologique qui produit des certitudes, qui produit effectivement des conflits, qui peut produire des guerres et des totalitarismes. Donc il faut le regarder aussi comme ça, en se disant, c'est pas parce que je suis convaincu que c'est vrai que ce n'est pas un système idéologique qui peut emmener à des pouvoirs violents. Les gens qui ont fait les révolutions ouvrières au début du XXe siècle, ils pensaient aussi qu'ils avaient tout à fait raison. Ils n'avaient pas forcément tort, mais effectivement, ils ont créé des systèmes qui étaient invivables, justement parce que c'était des idéologies. Donc il y a ça aussi, je crois, qu'il faut mettre dans nos discussions. On est en train de changer de référent. Alors après, les questions agricoles et les questions rurales. Alors, le premier enjeu du monde rural, c'est que comme on est dans une société extrêmement mobile, il y a plein de territoires qui, au fond, se repeuplent de gens qui ne sont pas forcément inclus dans la société locale. Vous savez qu'il n'y a plus... L'exode rural, en gros, est terminé. Alors, vous dire ça ici, au cœur du Morvan, ça peut vous faire un peu sursauter, parce qu'il y a des endroits. Mais en gros, tous les cantons français se repeuplent. Il y a partout plus de population, sauf à quelques tout petits endroits. Parce qu'il y a des nouvelles populations partout. Il y a des nouvelles populations de retraités. Il y a des nouvelles populations de très grands périurbains. Il y a des nouvelles populations de gens qui viennent s'installer dans les villages parce que c'est un mode de vie qu'ils ont choisi. Ça, c'est toujours par cycle. Il y a eu un phénomène très important dans les années 50. Il y a un phénomène très important dans les années 70, après 68. On est plusieurs ici à relever de ce monde-là. Bon, donc il y a des phénomènes de retour vers la campagne. Mais il y a surtout cette société d'extraordinaire mobilité. Prenez simplement Paris. Il y a 50 000 Parisiens tous les ans qui vont s'installer à la campagne, qui sont des retraités, mais qui vont retourner à Paris 3, 4, 5 fois par an, qui ne sont pas des gens qui s'installent à la campagne et qui ne changent plus. Non, ils sont dans 50 000, ce n'est pas marginal. Donc, il faut regarder ce mouvement de l'espace. Et la deuxième question, c'est la transformation de l'agriculture. Alors, le monde agricole, il est dans plein de difficultés, mais sa première difficulté, c'est que depuis 25 ans, l'agriculture est vécue comme un problème. Et le monde agricole se sent en permanence agressé à cause de la pollution, à cause de la PAC, des 40 milliards de la PAC, à cause des problèmes de destruction qu'ils peuvent créer, etc. Et donc, d'une certaine façon, c'est un milieu qui se sent complètement à l'envers de la société. En plus, ce n'est pas lui qui a compris l'écologie, il l'a compris souvent en dernier. Il y a d'autres qui, avant, avaient saisi ces enjeux dans les années 60-70. Et donc, ces gens qui travaillent le vivant, qui produisent des animaux, des végétaux, etc., qui produisent des éléments pour nous nourrir, ils ont l'impression d'être mal aimés par la société. Ils ont le sentiment souvent d'être rejetés. Et il y a une étude qui est intéressante, c'est que les paysans sont ceux qui ont le moins envie que leurs enfants soient paysans. C'est la première fois. Jusqu'à maintenant, vous savez que le métier de paysan, il se transmet de père en fils, pas obligatoirement, mais quand même de manière dominante. Et pour la première fois dans l'histoire, les gens des villes ont plus envie que leurs enfants soient paysans que les gens des campagnes. Et ça, ça nous dit quelque chose. D'accord, c'est un peu un mythe quand on a envie de mon fils pour être paysan, etc. Bon, on voit bien le velours, le soleil, etc. Bon, on ne voit pas la dureté du métier, etc. Mais donc, ça veut dire que c'est un groupe qui est en difficulté parce qu'au fond, il ne se désire plus lui-même comme groupe et comme projet, pour une partie en tout cas. En tout cas, les études d'opinion là-dessus sont assez nettes. Donc, il faut comprendre ça, y compris les violences que ça peut créer, les difficultés, surtout quand on est des années comme ça, où il y a des effondrements de cours, des choses très difficiles à gérer en termes économiques. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée sur les questions agricoles, c'est que la question agricole ne relève pas du monde agricole lui-même. Les enjeux agricoles ne sont pas des enjeux d'abord des paysans. Les enjeux agricoles, c'est ce qui fonde une société. Parce que ce qui fonde une société, c'est le fait de pouvoir se nourrir. Et la première, ce qui a fondé le politique, c'est la gestion des stocks alimentaires. C'est les greniers du Nil, c'est toute cette culture du stockage, donc de la régulation de l'aliment. C'est la première fonction du politique. C'est la garantie de la nourriture. Et c'est pour ça qu'effectivement, la question de comment on se nourrit, la question de comment on produit, la question de qui le fait, la question de est-ce qu'on le fait faire ailleurs ou est-ce qu'on le fait chez nous, tout ça, ce sont d'abord des questions politiques de la société. Ce n'est pas une question qui relève directement, uniquement des agriculteurs. Je crois que c'est important de le dire comme ça, parce que ça veut dire que dans une société qui marche bien, en fait, il y a un contrat entre le monde agricole et la société sur quel type de nourriture nous voulons. Et ça, c'est d'une société qui marche bien. En ce moment, on voit bien que la société, elle marche moins bien et que donc, sur ces questions, c'est beaucoup moins clair. La troisième idée sur ces enjeux agricoles, c'est que je pense que nos sociétés sont complètement tiraillées entre deux échelles, on va dire. C'est-à-dire qu'on a la montée d'un désir de proximité. Une chose remarquablement, c'était le débat sur la vache folle. Arriver à nous faire croire que parce que la vache, on savait d'où elle était saine, c'était génial. Ça a très bien marché, mais c'était fantastique. C'était un très bon concept. Il y avait le nom du territoire, le Massif central, vous avez été très bon, etc. Pour dire, ah ben nous, la vache, elle vient de là, etc. La vache anglaise, elle était évidemment malade. Mais c'est plus que ça. C'est qu'on a besoin de voir les choses produites, quand on voit les ANAP, quand on voit toute l'agriculture de proximité, etc. Il y a toute une nouvelle réflexion sur, effectivement, à la fois en termes d'empreinte écologique, en termes de lien entre celui qui produit l'aliment, celui qui le consomme, etc. Donc là, il y a un enjeu important qui est en train d'émerger. Et puis de l'autre côté, il y a nos 9 milliards de gens qu'il faut nourrir et qui ne se mettent pas forcément au bon endroit. Il y a des endroits où il y a plein de gens, il y en aura de plus en plus et ils ne pourront pas se produire à manger. Le meilleur exemple, c'est la Méditerranée. Le blé en Méditerranée est un problème absolument majeur à 30 ans. Majeur. parce que les populations se développent, notamment dans la partie Algérie, Tunisie, Maroc, etc., dans les espaces qui étaient agricoles. Donc les espaces agricoles disparaissent et après, effectivement, il n'y a pas d'espace agricole nouveau à conquérir parce qu'on ne peut pas faire pousser le blé dans le désert. Donc on est face à des télescopages d'enjeux à très rapidement, considérables, où on va avoir des responsabilités à l'intérieur de nos sociétés et à l'extérieur de nos sociétés. Et suivant les choix qu'on fait, il y a plus de gens d'en face qui viendront ou pas chez nous. Il faut dire les choses comme elles sont. Les peuples se battent pour vivre. Et si effectivement ils n'ont pas à manger chez eux, ils viendront manger chez nous. Et c'est une chose tout à fait logique. On peut faire ce qu'on veut, on peut démolir toutes les friches qu'on pas les friches, les jungles. Ça ne changera pas ce genre de processus. Donc ces problèmes sont complètement inséparables. Et la question des OGM, pour moi, elle rentre en partie dans ce débat.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Jean Viard.
La question des OGM est une question qui a été extrêmement mal gérée parce qu'il n'y a pas eu de courage politique. Parce qu'effectivement, on a lancé dans la scène publique des manipulations du vivant sans faire aucun discours et sans aucun débat sur est-ce qu'on est d'accord ou pas pour manipuler le vivant. On peut être contre. Aucune société n'est obligée à rien. Et donc, on l'a fait circuler comme ça en douce. Et donc, la société a eu l'impression qu'on lui faisait, j'allais dire un enfant dans le dos, c'est pas le mot qui convient, mais on lui faisait effectivement un élément essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le début de la manipulation du vivant et qu'on n'avait pas fait un grand débat de société. Et Monsanto, dans cette affaire, a poussé. Le politique a été complètement silencieux. Et moi, j'avais dit aux grands agriculteurs avec qui je travaille, je dis, mais demandez, faites-vous le moratoire. C'est à vous de faire le moratoire. Si la société n'en veut pas, bon, mauvais, j'en sais rien. C'est même pas la question. Moi, je suis sociologue, je suis pas. Mais il est clair que la société n'en voulait pas. Et donc, c'était à eux de demander le moratoire sur les OGM, ce qu'ils n'ont pas su faire. Et donc, effectivement, il a été fait de l'extérieur, ce qui était tout à fait logique. Mais soyons attentifs à la question des 9 milliards de gens à nourrir, si on veut effectivement être dans ces questions. Je ne dis pas du tout que les OGM sont la solution à cette question. Je dis simplement, soyons attentifs à ça et à ce type d'enjeu, parce qu'effectivement, notamment avec le réchauffement climatique, la réponse n'est pas simple. Donc, il y a tout ce type d'enjeu. Après, il faut se dire, mais qu'est-ce qui est si particulier dans le modèle français de l'agriculture? Et c'est une dimension qu'il faut bien comprendre, c'est que la France est un des seuls pays à avoir fait de l'agriculture la base de sa modernité. Qui fait qu'on a 36 000 communes, 500 000 élus locaux, un Sénat complètement enraciné dans la ruralité. C'est pas à vous que je vais expliquer ça dans le Morvan, avec l'histoire de Mitran, etc. Bon. Donc là-dessus, quand même, bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, prenez l'Angleterre, prenez ces pays-là, ils se sont entrés dans la modernité en sortant du monde agricole, en allant vers le monde industriel. Et au fond, petit à petit, on faisait partir les gens des campagnes pour aller travailler dans les usines, etc. C'est le modèle anglais typique du 18e siècle. Nous, il se trouve qu'on a fait les choses à l'envers parce qu'on a commencé à renverser nos valeurs politiques. Donc on a commencé par faire la Révolution française. Et une fois qu'on a fait la Révolution française, on a partagé les terres agricoles. On a commencé à les partager. Ensuite, on est allé à Moscou, donc on a abandonné nos stratégies militaires terriennes, maritimes, pour devenir un grand pays de conquête terrienne, qu'on a d'ailleurs perdu. Mais surtout, on est devenu un pays extrêmement instable. Et donc, on a passé le 19e siècle à faire des révolutions. Et à un moment, la Troisième République, les Jules Ferry, tous ceux qu'on admire, parce qu'ils ont fait l'école aussi, se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la France se stabilise? Et pour que la France se stabilise, ils ont décidé de bâtir le modèle politique sur une république paysanne, avec des paysans nombreux, honorables, chefs de famille, soldats, propriétaires, conseillers municipaux. Ce modèle du paysan français, etc. On a tous appris 14-18, le paysan français contre l'ouvrier allemand, etc. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'il n'y a plus de révolution. C'est-à-dire que l'alliance de la propriété rurale et de la propriété bourgeoise des villes a servi à bloquer les révolutions ouvrières. Et ça a donc permis la construction du modèle politique français avec les symboles, Marianne, la gerbe de blé, enfin bon, tous ces symboles qu'on a tous dans les mairies, etc. Et c'est donc un beau modèle parce qu'il a permis cette stabilité. On peut dire qu'il a bloqué des révolutions ouvrières, il n'a pas eu les éléments qu'il y a eu en Allemagne, qu'il y a eu, etc. en Russie. Mais ça voulait dire qu'on a donné comme mission aux paysans, non pas de nous nourrir, mais de défendre nos valeurs politiques. Et on leur a dit, si vous ne produisez pas assez pour nous nourrir, ce n'est pas grave, on va aller conquérir l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on a développé des conquêtes coloniales alimentaires, pour faire le complément régulateur du marché. Et on a tous vu pendant la dernière guerre que le problème du régime alimentaire régulé par les colonies, c'est que ça ne marchait pas en période de guerre, parce qu'on ne pouvait pas importer les matières, les aliments. Donc on a eu des pénuries pendant la guerre considérables. Et c'est important de se dire ça, parce que dans la transformation du monde rural, il faut se dire toujours, ça, ça a été le premier pas. Vous savez, la politique de Méline, bon, on a appris Méline, on ne savait pas toujours très bien. Il faut se dire, par exemple, le fait qu'il y ait 500 000 élus locaux, c'est 1884, c'est la même époque, c'est la fin du 19e. Et donc on a fondé nos paysans là-dessus, on a fondé notre culture politique commune sur cet enjeu. Et les paysans ont tenu le pari merveilleusement, même si ça s'est un peu mal fini, avec Pétain, les chemises vertes, la terre, elle ne ment pas, qui est le même discours retourné, au moment où le monde agricole s'est rendu compte que la ville était devenue plus importante que la campagne. Et il faut toujours se dire qu'en France, la ville ne devient plus importante que la campagne qu'en 1930. En Angleterre, c'est 1830. Il y a un siècle d'écart. C'est considérable. Nous, il y a plus de gens à la campagne que dans les villes jusqu'en 1930. Et c'est pour ça que le mouvement des chemises vertes, etc., qui va être la base du pétainisme, il va démarrer au moment de la sortie du recensement de 1932, qui dit qu'il y a plus de gens dans les villes que dans les campagnes. Et le monde des campagnes va avoir l'impression d'avoir été trahi, parce qu'il avait un contrat républicain qui était un contrat de population nombreuse. Et donc ça, c'est la première chose. Le deuxième pacte qu'on a fait dans ce pays, c'était encore original, c'est au moment de la décolonisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gaullistes, c'est-à-dire ceux qui avaient gagné sur les pétainistes, ceux qui effectivement n'aimaient pas cette vieille campagne, cette partie pétainiste de la campagne, il n'est qu'une partie de la campagne, il y en a bien d'autres, heureusement, ils ont, en 1960, fait un autre contrat. Ils ont dit, on ne va plus avoir de colonies, on va finir d'importer des aliments et on va demander à nos paysans de nous nourrir. Et on va dire qu'il y a deux armes pour défendre la France, l'arme atomique et l'arme alimentaire. C'est toute la rhétorique du gaullisme. Et on a demandé effectivement au monde agricole, on a dit écoutez, c'est très simple, vous êtes 3 millions, il faut en virer 2 millions et le million qui reste, il va produire de l'aliment en grande quantité. Encore une fois, le monde agricole l'a fait. Ça a été un des traumatismes les plus puissants du départ des campagnes. 2 millions, 2 tiers des agriculteurs ont disparu en 20 ans. Ça veut dire des gens qui sont partis, qui ont fermé la porte, qui l'ont mis sous la porte, des jeunes qui sont partis vers les villes, faire les OS dans les usines, etc. Et ça, c'est les années 60, les années 70. Le moment où un certain nombre de babacoules comme moi seraient installés à la campagne. Il faut bien comprendre aussi qu'un certain nombre de tensions étaient compréhensibles entre ces gens qui étaient en train de partir et d'autres gens qui arrivaient tout contents, etc., retour à la terre et tout. Bon, il faut voir quand même le décalage entre ces trajets dans plein de territoires. Mais ceci dit, encore une fois, le monde agricole a été là, puisqu'en 1984, il y avait des surplus de beurre. Donc ça veut dire que là, encore une fois, le monde agricole a joué la carte politique qu'on lui demandait de jouer. Il l'a joué merveilleusement. Il l'a joué en investissant dans la technique, en investissant dans la chimie, en investissant dans le commerce et en investissant dans le long terme. Parce que une exploitation agricole, c'est des investissements sur 30 ou 40 ans. Donc on ne peut pas tourner facilement, c'est comme un gros tanker, ce n'est pas un petit voilier. Quand on change de référent, quand on entre dans une autre culture du rapport à la nature, le type qui a investi sur 40 ans, il ne peut pas comme ça du jour au lendemain transformer son exploitation. Mais le pacte a été tenu et effectivement on est rentré dans cette société des surplus alimentaires qu'on connaît. Mais il faut se le dire comme ça. Et au fond il faut se dire une chose, c'est que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sera capable de faire un troisième pacte? C'est-à-dire est-ce qu'on est capable de repenser l'agriculture dans le cadre du développement durable avec les nouvelles attentes des populations urbaines, dans le cadre de cette société d'extraordinaire mobilité. Et pour qu'on soit capable de le faire, il faut qu'il y ait un désir à l'intérieur du monde rural et un désir à l'intérieur de la société. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé en 1870, après la Commune de Paris, il y avait un désir profond des agriculteurs de devenir conseiller municipal, d'être propriétaire, de développer des exploitations familiales. Donc ça a rencontré le discours politique des républicains. Au moment où Edgar Pisani, avec pour De Gaulle, a fait la nouvelle politique agricole dans les années 60, il y avait un désir considérable des jeunes agricultrices, souvent catholiques, d'avoir le propre, d'avoir l'eau courante, de décohabiter avec leur belle-mère, d'avoir des modes de vie modernes, notamment la question bien sûr du propre et de l'autonomie des femmes. Et donc entre les valeurs qui se battaient, qui se défendaient dans ces cercles féminins, et puis la politique du gouvernement, il y a eu un deal, il y a eu un accord. Et au fond, l'idée de modernité s'est rencontrée autour de ce type de valeurs. Et la question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas, à l'intérieur du monde agricole ou du monde rural, au fond, la base pour passer un pacte. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que pour l'instant, il n'y a pas, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais. Mais en ce moment, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'd'une certaine façon, on ne voit pas où, à l'intérieur du monde agricole, il peut y avoir négociation avec la société sur ce que c'est qu'une agriculture durable dans le monde de demain et comment on peut la réorganiser. Et c'est donc une des difficultés devant laquelle on est. Alors en même temps, la campagne, c'est évidemment pas que l'agriculture. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le rapport à la campagne a complètement changé depuis une quarantaine d'années. Il y a deux mots que j'aime beaucoup. Deux mots que j'aime beaucoup, c'est pas ça, mais dans le sens qu'ils ont par rapport à notre sujet. Si vous prenez les mots de liberté et les mots de beauté, jusqu'aux années 60, c'est des mots qui sont associés à la ville. La ville rend libre. Le servage qui s'en va, etc. La beauté est l'œuvre de l'homme. La ville est belle. Et puis à partir des années 60, ça va être la campagne qui va être le lieu de la liberté, le lieu de la beauté. Et on voit monter dans l'imaginaire des gens qu'on est plus libre à la campagne qu'à la ville, que la campagne est plus belle que la ville, etc. C'est à la fois parce que la ville a une image plus négative, mais c'est aussi parce que ce n'est plus la même liberté. C'est la liberté de l'individu face au contrôle social du groupe. Ce n'est pas la liberté politique. C'est une liberté individuelle. Oui, à la campagne, je suis plus libre de me promener avec ma copine et d'aller lui faire visiter certaines meules de foin. Ça, je suis plus libre qu'à la ville. Mais ce n'est pas la liberté de faire des révolutions, de porter des projets, etc. Ce n'est pas la même liberté. Mais quand même, donc la ville a complètement changé son rapport à la campagne. 68 a été le haut lieu de ça. C'est le moment du retournement de la mise en scène, je veux dire, même si c'est en partie une mise en scène. Et donc, petit à petit, à partir de ce moment-là, il y a un désir de campagne, il y a une mise en désir de la campagne qui est construite par la ville, qui est une mise en désir ludique, qui fait qu'on est par exemple le pays du monde où il y a le plus de résidences secondaires. En France, 11% des maisons sont des résidences secondaires. C'est énorme, parce qu'une maison est utilisée par plusieurs personnes. Ça veut dire qu'en gros, un tiers des urbains utilisent une résidence secondaire, directement à eux ou à leurs proches. Ça veut dire une part considérable de la société. Ça veut dire aussi qu'on a en ce moment des dizaines de milliers de retraités urbains aisés qui viennent massivement s'installer dans les campagnes. Et comme les retraités vont s'installer là où, dans les territoires des vacances, il y a deux grands lieux d'installation des retraités au moment de la prise de retraite. Il y a les grands lieux de vacances et les lieux de l'origine. L'origine qu'on se raconte. Mon grand-père était breton, etc. Et donc forcément, on a, on pourrait dire, une remontée de l'exode rural avec la retraite et une remontée vers les zones touristiques. Et on voit bien comment tous les lieux mis en valeur, notamment par les vacances, sont actuellement face à un flux très important de retraités qui est une ressource énorme pour l'économie locale, puisqu'on considère en gros qu'un couple de retraités crée un emploi. C'est plus facile de créer 1 million d'emplois avec des retraités qu'avec l'industrie automobile. Beaucoup plus facile. Et notamment parce qu'on touche, si on peut dire avec des guillemets, des retraités européens qui viennent d'ailleurs, parce qu'eux aussi, on est le premier pays touristique au monde. Donc il y a des dizaines de milliers de retraités anglais, hollandais, belges, allemands, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de venir prendre leur retraite en France. Et donc de créer de l'emploi en France avec l'économie de la retraite. C'est aussi un des enjeux, même s'il y a des territoires maintenant qui réagissent difficilement. La question des Anglais est très difficile dans certains régions. La question des Allemands est extrêmement difficile dans les Vosges. Les Hollandais, n'en parlons pas. Il y a un discours généralement négatif. Pour des raisons, après, on pourrait regarder territoire par territoire. Mais c'est important de comprendre ça, parce que nos sociétés, il y a le monde du tourisme avec ses territoires, il y a cette histoire agricole. Il y a ce qui est en train d'émerger, c'est ce monde de la retraite. On pense toujours à la retraite comme une charge. On a une société incroyable, quoi. On pense toute la journée que la retraite, ça coûte cher, etc. Attendez, la retraite, c'est nous. C'est parce qu'on vit longtemps. Et pour les territoires, c'est une ressource, parce que ce n'est pas la commune résidente qui paye les retraites. Donc, je veux dire, c'est une ressource absolument gigantesque de répartition. Et donc, il y a une stratégie, mais il n'y a aucune politique pour attirer les retraités dans la plupart des territoires. Il y a quelques exemples différents. Donc, c'est pour dire, sur les questions agricoles, il y a donc ce désir de campagne qui s'est construit petit à petit, qui a peut-être un petit peu en recul, et qui transforme les usages des zones où nous vivons. Et puis, plus au fond de ça, il y a au fond un imaginaire de nature qui a complètement changé. Et je crois qu'il est, en France, difficile à comprendre. Si vous voulez, en gros, si je schématise, nous, on est un vieux pays catholique, et les vieux pays catholiques n'ont jamais beaucoup aimé la nature. Les vieux pays catholiques ont toujours tout fait pour mettre la nature à distance. La nature, la surnature, la sorcière. Et d'une certaine façon, ce qu'on valorisait, c'était les œuvres de l'homme. L'église, les peintures dans l'église, des monuments dans l'église, toutes choses. Bon. L'idée de valoriser la nature, c'est lié à la rupture protestante. C'est-à-dire les protestants, au moment, vous savez, où on construisait Saint-Pierre de Rome, quand le protestantisme s'est développé avec Calvin et Luther, effectivement, ils se sont dit, mais c'est quoi les signes de l'existence de Dieu? Si ce n'est pas des églises chargées d'ornements, couvertes d'or, etc., comme le disaient les catholiques à l'époque, avant la contre-réforme. Ils ont dit, c'est la nature. Le signe de l'existence de Dieu, c'est la beauté de la nature. C'est la beauté d'un arbre, c'est la beauté d'une source, etc. Et donc, ils ont fait de la nature un lieu totalement sacré. Ils ont sacralisé la nature. Et cette construction-là, si vous regardez, faites une carte du vote écologique en Europe, vous allez trouver des croisements extrêmement forts. Prenez les écologistes en Grèce. Enfin, je leur souhaite bien du plaisir. Ils sont très très loin d'arriver à avoir un poids politique considérable. Je prends la Grèce exprès parce que c'est loin et très au sud. Mais bon, on pourrait dire la même chose en France ou à Marseille, par exemple. Bon. C'est pas pour être schématique, mais il faut donc comprendre qu'est venue une idée de nature qui effectivement est rentrée dans nos sociétés, qui est compliquée, qui est un peu différente. Et il y a un moment qui est important, c'est les années 60, c'est avant 68. Il y a eu un colloque qui était très amusant, qui était à l'URSS, où effectivement on a fondé les parcs naturels régionaux. Et il y avait tous les gens des mouvements catholiques autour de Claudius Petit, tout ça, qui sont étaient là et qui disaient qu'il faut créer des parcs pour protéger la civilisation paysanne. Et puis, il y a des gens qui étaient déjà plus modernes, enfin plus modernes, d'un autre chemin, et qui disaient non, il faut protéger l'environnement, les escargots, etc. Et finalement, ils ont négocié ce type de parc. Et c'est comme ça qu'on a inventé les parcs naturels régionaux. Mais les parcs naturels régionaux, si on prend un exemple que je connais bien, mais je ne suis pas le seul dans cette salle, c'est le parc du Luberon. C'est très intéressant parce que c'est un projet d'un parc entre trois montagnes, Lure, Ventoux, Luberon, c'est-à-dire autour d'une civilisation, d'une ville, des villages, etc. Et ce qui est sorti, c'est un parc qui n'est plus qu'une montagne. Donc c'est la montagne, c'est plus le territoire rural. Donc on a inversé d'une certaine façon. Ce qu'on protège, c'est là où il n'y a pas d'homme. On ne protège pas la culture de l'homme. Donc là, on a eu un retournement important qui montre bien comment, encore aujourd'hui, toutes ces choses peuvent fonctionner comme des espaces de tension, de différenciation. Et une des questions qu'il faut se poser, mais qui n'est pas centrale dans le Morvan, mais sur laquelle, par exemple, on travaillait ce matin à Blois, c'est quoi la nature musulmane ? C'est quoi la nature musulmane ? C'est quoi la nature d'un immigré d'Afrique ? Comment est-ce qu'il a un rapport à la nature ? C'est quoi sa nature ? Ce n'est pas une question simple, parce que la culture du jardin, la culture du désert, la culture, l'absence de la vache, il y a une multitude de signes. Alors ici, ce n'est pas un enjeu sans doute absolument majeur, mais quand on travaille par exemple dans les très grandes villes, c'est un enjeu tout à fait important d'écouter ce qui fait signe de nature ou pas dans les différentes cultures. Bien. Et donc, le développement durable dans tout ça, le développement durable, ce n'est pas de l'écologie. Le développement durable, vous savez que c'est une notion extrêmement récente, ça date de 87. Avant, il y avait bien sûr d'autres pensées avant, mais le mot lui-même, bon. Le développement durable, c'est l'idée en permanence qu'il y a des droits sur les générations suivantes, au fond. C'est l'idée que la génération suivante a des droits. Et donc, il y a les droits des gens, des vivants, et puis il y a les droits des générations suivantes. Et que l'un est opposable à l'autre. Et on pourrait rajouter, il y a des droits des générations du passé. On ne peut pas détruire une cathédrale romane pour faire passer une autoroute. Il y a un patrimoine culturel, il y a un patrimoine naturel, et puis il y a le droit des vivants. Et au fond, le développement durable, c'est la tentative de rassembler dans nos décisions le droit des trois générations, mais essentiellement des générations futures et des vivants. Mais c'est compliqué, parce que ça amène à des arbitrages. Est-ce qu'effectivement on privilégie l'aide aux plus défavorisés ? Est-ce qu'on privilégie les générations futures ? Comment on arbitre ? Qui arbitre ? Qui a le pouvoir d'arbitrer ? C'est évidemment pas simple, et je pense qu'en plus, ça met du temps à rentrer, non pas dans le discours politique de surface, mais dans la révolution, dans la réflexion extrêmement profonde sur les enjeux. Et mais c'est vraiment ça le développement durable, c'est ce type de pensée. Et c'est tout à fait nouveau de se dire que les générations à naître ont des droits, et que les générations futures sont légitimes, et qu'on est chargé plus ou moins de protéger cette chose-là. Et je crois que si vous voulez, il faut comprendre que la question qui nous est posée, c'est comment cette vision-là peut rentrer à la fois dans les enjeux agricoles et en même temps dans les nouveaux usages de la campagne qu'on a. C'est-à-dire comment la question de la production du vivant, du nourrir, de l'art de faire pousser, s'articule avec tous ces usages de la campagne, les retraités, les périurbains, les pauvres aussi des villes qui sont rejetés vers les campagnes parce que la ville est trop chère et que donc il y a aussi une pauvreté qui se diffuse dans la campagne. On la voit moins parce qu'effectivement c'est des individus isolés, vous êtes un peu loin des grandes villes, mais ça joue de manière tout à fait importante. Et donc je crois que si vous voulez, les questions qui sont posées à ce territoire, je ne suis pas là pour vous apporter des solutions. Je suis là pour dire, il y a des enjeux, il y a un mouvement. On est en déficit d'acteurs. On a un énorme déficit d'acteurs. Parce qu'au fond, on n'a pas une pensée politique de ces questions qui sort de la société elle-même. Et un des enjeux, c'est de la penser, d'en discuter. Comment on a envie de vivre ici dans 20 ans ? Comment on a envie que nos enfants vivent ici ? Comment en même temps, on facilite le départ de nos enfants parce qu'on veut qu'ils reviennent ? Comment on a cette culture qui dit qu'un enfant qui part librement a souvent plus de chances de revenir dans une société hypermobile, alors que bien souvent, on ne se pose pas les questions comme ça. Et donc comment, au fond, on est capable de se projeter dans l'avenir, avec ces différentes dimensions, de comprendre que le faire pousser est redevenu central, et au fond, de regarder le monde rural autrement. Et pour finir, je donnerai deux idées là-dessus. La première, c'est que, en fait, pour moi, le monde rural n'existe plus. Il y a un monde des fermes qui existe, où il reste en France à peu près 500 000 fermes. Ils tiennent à peu près la moitié du territoire national. Donc il y a la moitié du territoire qui ne tiennent plus. Ils ont lâché la forêt. Il faut la leur redonner. Je pense que la forêt est un enjeu déterminant de l'avenir du monde agricole et de l'avenir de l'énergie dans nos sociétés. Et en même temps, ce monde agricole, il est effectivement discontinu. Il y a des endroits où il y en a, il y a des endroits où il n'y en a pas. Et en plus, il a perdu une partie de sa légitimité politique. C'est-à-dire que il n'y a plus le lien direct, fort entre le monde agricole et le monde politique. C'est en partie perdu. En partie. En partie. Ils tiennent quand même encore beaucoup de choses. Mais en partie. Et donc, il y a effectivement, au fond, un monde des fermes qui est en train d'émerger dans une société rurale beaucoup plus diversifiée, où il y a des périurbains, des retraités, des gens qui ont fait le choix de vivre là parce que l'endroit leur plaît, des pauvres qui sont relégués dans ces territoires, et puis des familles productives, agricoles, traditionnelles, etc. Il y a tous ces mondes. Et il y a une crise politique du village derrière tout ça. Parce que qu'est-ce qui fait que tous ces gens vivent ensemble? Ils ont quel type de projet? Pendant longtemps, quand on était dans un village, c'était évident que c'était la culture paysanne qui dominait. C'était la légitimité. Même s'ils étaient minoritaires, les paysans ont toujours été minoritaires à la campagne, mais leur légitimité était majoritaire. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Cette légitimité est en question. Et donc, effectivement, le monde rural en tant que monde ne veut plus dire grand-chose. On est tous mobiles. Et bien souvent, un des endroits les plus ouverts, c'est les tables des agriculteurs le dimanche. Parce que la plupart de leurs enfants vivent en ville, et c'est souvent un des lieux où il y a la rencontre entre la campagne et la ville extrêmement fort, beaucoup plus que dans les autres milieux, où on ne voit jamais de gens qui de paysans, enfin on ne rencontre pas. Et donc là, il y a des choses tout à fait différentes. Et puis, la deuxième chose tout à fait importante, c'est de se dire que, au fond, il y a un monde vert qui est en train de se constituer. C'est-à-dire que l'idée que le faire pousser revient au centre, l'idée que la majorité des gens ont des jardins, l'idée qu'on a plus d'animaux domestiques que d'enfants, ça signe des interrogations, ça signe des rapports à la nature, tout le débat sur le soleil, le rapport à l'eau, etc. Là, il y a effectivement tout un monde qui est en train de se construire, qui est transversal, qui intègre l'aliment, l'agriculture, le bien-être du corps, qui intègre évidemment la forêt, l'énergie, qui est en train de retrouver sa place. Non pas la place qu'il avait avant. On ne sait pas faire vivre le monde avec les techniques agricoles du 19e siècle quand on sera 9 milliards. Ça non, ça tard. On considère la gestion de la rareté, par exemple, a longtemps été une immense valeur dans plein de sociétés paysannes. Et donc là, il y a des choses intéressantes à regarder. Donc il y a des structures culturelles qui sont intéressantes. Et en même temps, la société de demain, ça va être un télescopage entre de la science extrêmement innovante et la défense d'un certain nombre de valeurs pour se demander qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on est prêt à jouer ensemble. Et c'est ça qui, en ce moment, d'une certaine façon, est un peu silencieux. Et c'est ce qui fait que le monde rural change, mais d'une certaine façon, un peu à reculons. Et que les politiques ont bien compris que le discours du rural qui meurt, ça permet d'obtenir des subventions, etc. Et tout. Donc on voit bien le discours politique là-dessus, il est efficace. On voit aussi que la souffrance de beaucoup d'agriculteurs, parce qu'il est clair que leur niveau de vie, leur irrégularité de niveau de vie, et dans certains secteurs, leur bas niveau de vie traditionnel, parce que sur les 500 000 agriculteurs, il y en a au moins 200 000 qui ont des niveaux de vie qui sont absolument catastrophiques, et tout le temps. Après, les producteurs de blé, il y a des bonnes années et des mauvaises années. Il y a une très très bonne année en 2007, c'était... Mais il y a toute une partie du monde agricole qui, effectivement, est en fait un monde quasi pauvre. Et donc qui, effectivement, du coup, n'a plus aucune place pour gérer les aléas climatiques, ce genre de choses. On le voit très bien en ce moment avec le lait, par exemple. C'est complètement évident avec les fruits et légumes. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut... Voilà. Moi, je voulais vous dire un peu tout ça. C'est-à-dire essayer à la fois de dire il y a un changement général, il est rapide, il est complexe, il n'y a pas de solution toute simple. Et on est face à des questions qu'il faut redébattre pour se demander, au fond... Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun? Comment on a envie de se représenter la vie dans ces territoires, de s'y projeter, en sachant que ce n'est plus une vie locale, c'est une vie de population mobile, de gens qui se déplacent. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui resteront tout le jour là, il y en a qui arrivent qui n'étaient pas de là, etc. Et comment on construit un projet commun avec ces différences de trajet sur un même espace? Comment à la fois on valorise la culture locale et on n'en fait pas un totem d'exclusion, mais on en fait un totem de rapprochement? Et comment on se pose ces différentes questions. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous attendiez, mais ça peut faire ouverture.
Est-ce que vous pensez, j'adhère complètement à votre discours, mais est-ce que vous pensez, au travers des crises qu'on voit aujourd'hui, que l'agriculture ne doit pas être quand même administrée? Quand je pense au yo-yo du prix des céréales, hein, qui double, qui triple ou qui s'effondre sur 2 ans, On peut parler de la crise du lait, on peut parler des chutes de viande, des prix de la viande, etc.
Je ne dirais pas administré, je dirais régulé. Mais vous savez, les marchés non régulés, en fait, j'y crois pas, mais je vais vous dire quasiment pour aucun produit. Mais encore moins pour l'agriculteur, y compris parce que tout est irrégulier. Ce que j'ai dit sur le blé tendre d'Australie, etc. Donc c'est clair que le besoin de régulation est extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une des grandes batailles des prochaines années, c'est de créer un Conseil mondial de l'alimentation. On ne peut pas, sur cette planète, ne pas réguler la question alimentaire. C'est pas possible. On a des conseils pour le FMI, on a des conseils bancaires, etc., et pas sur l'alimentation. Y compris pour se poser ces questions de où est-ce qu'on va trouver les milliards dont on a besoin pour faire de l'investissement en Afrique, sur les canaux d'irrigation, sur les transports, etc., qui va les mettre. Et on ne peut pas vouloir tout et son contraire, je veux dire. Et donc, effectivement, cette question, elle est totalement essentielle, notamment, évidemment, en Afrique noire. Et donc, on sera obligé d'amener ça. Donc, moi, je ne crois pas à une agriculture administrée, mais je crois à une agriculture extrêmement régulée. Et en plus, ça dépend des produits. En plus, derrière, il y a tout le débat sur les empreintes écologiques. Alors, il y a aussi toutes les nouvelles consommations. Vous allez à New York, par exemple, vous avez un restaurant dans une des sociétés les plus high-tech du monde qui s'appelle le 150. Parce que tout vient de moins de 150 km. Et donc, c'est leur concept, effectivement, de la nouvelle agriculture. C'est toujours rigolo de voir les entreprises les plus en pointe en termes de high-tech être aussi celles qui, là-dessus, sont des acteurs extrêmement dynamiques. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas vouloir administrer parce que la demande des sociétés, elle change en permanence. Mais il faut réguler. Et il ne faut pas avoir honte de réguler. Et le fait que la Commission européenne n'ait pas été anti-régulatrice, ça nous amène en partie au conflit qu'on a. Mais après, les marchés auront toujours des crises. Je veux dire, un marché, c'est comme un couple. Un couple qui n'a jamais de crise, c'est une catastrophe. Un couple qui s'engueule tout le temps, c'est complètement chiant. Mais je pense en gros qu'un marché, c'est la même chose. Il y a forcément des tensions, des irrégularités. C'est forcément discontinu. Et le rôle de la puissance publique, c'est de réguler les pics, en réalité. De réguler les pics de production ou les pics de sous-production, etc. Ou les pics de succession, etc. Mais considérer qu'il y a des marchés qui peuvent être étals parce qu'on les administre, c'est un rêve, mais malheureusement, il a marché nulle part. À mes yeux, il a marché nulle part.
Alors voilà, merci Jean Viard pour toute cette matière à penser.
Ma jolie danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout. Dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots. Danse, ma jolie danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.